France Culture.
Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Jean Baudrillard n'est pas qu'un philosophe et un sociologue. C'est aussi un enquêteur qui s'est chargé lui-même de l'enquête métaphysique la plus importante qu'il soit. Le meurtre du réel. C'est un crime parfait, sans motivation et sans auteur. C'est donc une enquête impossible à laquelle se livre l'inspecteur Baudrillard, qui à coups d'hypothèses et d'analyses brosse un portrait bien morne de l'illusion dans laquelle nous vivons. Car le réel étant mort, nous ne vivons que dans la fausseté. Quand il dit, avec son sens légendaire de la provocation, que la guerre du Golfe n'a pas eu lieu, c'est qu'elle n'a pas eu lieu de la façon dont les médias l'ont représentée. Toute image, tout récit fait partie de cette illusion globale que nous prenons désormais pour la réalité. Il y aurait donc une forme d'imposture métaphysique. L'illusion qu'il appelle hyper-réalité se prend pour le réel et s'impose ainsi à nous comme le seul monde accessible. Il n'y a plus de place pour un imaginaire clairement distingué d'une vérité. Tout se confond et le monde entier nous est accessible par le biais des médias qui désormais créent du sens, créent des événements plutôt que les représenter adéquatement. Ce numéro de Premier Pouvoir d'Elisabeth Lévy, avec Gérard Casanova, Jean-François Colosimo, Antoine Perrault et bien sûr Jean Baudrillard, revient sur cette enquête, à la fois épistémologique et sociologique, de l'auteur de la société de consommation, qui cherche à faire connaître les tenants et les aboutissants de cette extermination du réel. Une émission réalisée par Mehdi Eladj est diffusée pour la première fois le 24 décembre 2005.
Bonjour. Le Premier Pouvoir.
Une émission d'Elisabeth Lévy.
Qui a assassiné la réalité? Nous avons demandé à l'inspecteur Jean Baudrillard de mener l'enquête.
Une nouvelle réglementation sur les voyages à l'étranger est en vigueur depuis aujourd'hui en RDA. Elle permet à tout citoyen de se rendre en RFA à Berlin-Ouest et partout à l'étranger sans motif particulier et sans raison familiale. Depuis ce matin, les services compétents délivrent les visas nécessaires pour plusieurs voyages pour une durée de 6 mois. Cela se fait sans complications et à bref délai. Nombreux sont déjà les voyageurs et les visiteurs au passage frontière de la capitale de la RDA avec Berlin-Ouest. Le tout se passe dans un climat courtois, sans entrave et sans aucune difficulté. Le porte-parole du gouvernement, Wolfgang Mayer, avait annoncé hier soir que la nouvelle réglementation concerne aussi les sorties de citoyens de la RDA désireux de se fixer définitivement à l'étranger.
Le média, c'est le message, disait le perspicace McLuhan. Mauvaise nouvelle, le média a englouti le message, et tout le reste avec. Personne ne le sait, mais le réel a fermé boutique. L'algorithme a terrassé le hasard, la carte a avalé le territoire, l'immédiat a vaincu la médiation. L'événement a été supplanté par sa diffusion en temps réel. Le référent s'effondre sous le poids d'un signifiant devenu fou. Bref, chers auditeurs, vous n'existez plus vraiment. Vous êtes déjà un auxiliaire de votre écran. Même si vous n'en avez pas, c'est Jean Baudrillard qui vous le dit. Le monde, selon Baudrillard, fait parfois penser au rivage désolé où errent les clones de Welbeck à la recherche d'une trace de la vieille humanité, et parfois au Truman Show. Inconscients de la post-histoire qu'ils font, les néo-humains sont passés de l'autre côté de l'écran. Et ils y découvrent avec effroi et fascination qu'il n'y a rien. Dans cet anti-monde où règne la loi de la visibilité intégrale, tout est réel et plus rien ne l'est. Rien à cacher, rien à montrer, rien à dire. On ferme. Bien sûr, on n'est pas obligé d'ajouter foi à cette prophétie ironique et apocalyptique. On peut croire que l'humanité fera échouer ce plan que personne n'a concocté. Après tout, si c'est la télé qui l'a fait, c'est nous qui l'avons voulu. Nous pouvons cesser de le vouloir. La catastrophe, quoi qu'en dise Jean Baud, n'est pas totalement accomplie. Reste à espérer qu'il se trompe. Pouvons-nous échapper à la malédiction du simulacre ? Est-il encore temps de sauver la réalité ? Pour répondre à des questions aussi vertigineuses, nous avons invité l'homme qui les a posées, Jean Baudrillard, qui sera de nouveau avec nous la semaine prochaine. Bonjour Gilles Casanova, je ne sais pas si vous êtes tout à fait réel, mais vous êtes là, incarné, ainsi que nos chroniqueurs.
Bonjour, avec nous ce matin, Jean-François Colosimo, éditeur et théologien, nous apportera peut-être les secours de la religion.
Bonjour.
Antoine Perrault, grand reporter à Télérama et producteur à France Culture, qui viendra peut-être avec les lumières de la littérature.
Bonjour Jean Baudrillard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour ces deux émissions de fin d'année. Alors, pendant plusieurs années, vous avez publié dans Libération une chronique et on vous présentait comme sociologue, raison sociale que vous récusez. Vos lecteurs savent en tout cas que vous n'êtes pas un adepte du sociologisme et vous ne vous reconnaissez pas non plus le titre de philosophe. Bon, vous êtes en tous les cas le cadeau de fin d'année que nous offrons à nos auditeurs et je dirais que vous êtes le chroniqueur de ce qu'on pourrait appeler la virtualisation du monde, une sorte de flic métaphysique lancé aux trousses des assassins du référent. Est-ce que ça vous convient ?
Oh oui, paradoxalement, tout ça est quand même, il faut pas, justement, si on parle de la disparition du réel ou de son évanescence, on ne va pas commencer à prendre cette hypothèse-là comme réelle. Hein. Une hypothèse, c'est une hypothèse. Bon, alors, je suis en simulation moi-même. Je suis ici comme simulacre à la fois, et, bon, en chair et en os, un peu, si vous voulez. Mais enfin, bon, c'est pas moi l'assassin, hein, de toute façon.
Et on ne sait même pas s'il y en a un.
Oui, non, il n'y en a pas, justement. Ouais. En cela, c'est quand même, justement, une espèce de meurtre très spécial. Est-ce qu'il y a un assassin ? Est-ce qu'il y a une victime ? Est-ce qu'il y a un corps du délit ? Est-ce qu'il y a des conséquences à ce meurtre ?
Alors, je vais vous citer. En 1995, vous avez donc publié aux éditions Galilée Le crime parfait, qui commence par ces phrases. « Ceci est l'histoire d'un crime, du meurtre de la réalité et de l'extermination d'une illusion, l'illusion vitale, l'illusion radicale du monde. Le réel ne disparaît pas dans l'illusion, c'est l'illusion qui disparaît dans la réalité intégrale. » Si je vous comprends bien, la réalité disparaît quand se réalisent toutes ses potentialités et que disparaît en fait l'imaginaire.
Voilà, tout s'absorbe finalement, fantasme, imaginaire, rêve, enfin illusion, utopie. Tout ça est absorbé par une espèce de, bah, je ne sais pas bien, un mouvement opérationnel, disons, largement relayé par la technique évidemment aujourd'hui, mais enfin elle ne date pas d'hier quand même, qui en effet passe de la réalité objective, celle qu'on connaissait traditionnellement, notre bonne petite réalité, celle qui peut se représenter, parce qu'elle est liée à la représentation, qui passe alors là à une espèce de réseau, de trame totale, intégrale, je dis, moi, bon, le mot... Oui, je pense que le terme réalité intégrale, c'est bien. C'est-à-dire que le réel, dans ce sens-là, et c'est pas la seule façon de disparaître, mais dans ce sens-là, il disparaît par achèvement, par accomplissement
c'est ce
total.
C'est ce que vous appelez la solution finale, sauf qu'il n'y a pas de criminel contre l'humanité. Donc.
Il y a une extermination là derrière, c'est vrai. Alors, le criminel, non, parce que ça ne profite ni à un groupe, ni à une classe, ni à une... non, c'est une... Bon, je veux dire, c'est un... comment dire, une mutation peut-être, on pourrait presque en parler en termes anthropologiques, la disparition du réel, le passage, disons, du stade, pour simplifier, hein, là, du stade du miroir, celui de la représentation, à un stade de l'écran, comme on disait. Alors là, effectivement, c'est autre chose. La profondeur disparaît, on est dans une extension, une extensibilité totale, et tout est réalisable, c'est-à-dire, voilà, tout doit être réalisé.
Mais ce réel intégral, c'est aussi un réel qui est délivré de sa part maudite. Dans le fond, nous aurions connu une première chute, un premier exil, en dévorant le fruit de l'arbre de la connaissance, et nous sommes de ce fait entrés dans l'histoire. Aujourd'hui, nous connaissons une nouvelle chute en inventant ce réel qui est expurgé de toute négativité, c'est ça ?
Et oui, là, c'est l'espèce.
Et nous sortons de l'histoire.
D'opération de purge, effectivement, d'extermination, enfin, de, je veux dire, à la limite, de nettoyage ethnique du réel, quoi, d'une certaine façon. Et c'est ça, cette disparition de la négativité, c'est le point de départ, effectivement, de cette opération là, bon, moi je l'ai appelé le crime parfait parce que j'y vois quand même quelque chose. Enfin, il faut bien prendre un point de vue un peu agressif par rapport à cette chose-là, sinon on le subit passivement. Alors, parler d'un meurtre, bon, c'est peut-être métaphoriquement faux, mais ça veut dire quelque chose. Hein,
c'est assez convaincant.
Bon, c'est comme le meurtre de Dieu, bien le meurtre de Rel succède finalement à l'autre.
Gilles Casanova, vous...
Ici, nous essayons de ne parler que de l'aspect médiatique des phénomènes sociaux. Et comme selon vous, le système médiatique a dévoré l'ensemble de la société, il va nous être difficile de nous tenir à notre règle, parce que nous sommes un peu devant un boa qui aurait avalé un éléphant. Nous parlerons du boa, et donc par moment aussi de l'éléphant, ce qui nous sortira un peu de notre règle.
Alors, nous allons revenir sur quelques étapes de cette mutation anthropologique, et peut-être d'ailleurs aurons-nous l'occasion, Jean Baudrillard, de vous interroger sur le lien entre le système médiatique et ce monde virtuel. Ça n'est pas... On ne parle pas exactement de la même chose. Alors, la fin du XXe siècle a été riche en ce que nous appelons, peut-être à tort, sans doute à tort, des événements. Et plus ces événements étaient présentés comme importants, plus ils étaient présents sur nos écrans, et plus vous proclamiez leur irréalité. Vous avez fait scandale en affirmant que la guerre du Golfe n'avait pas eu lieu. C'est le titre d'un recueil de textes que vous avez publié en 1991. Baudrillard, c'est ce salaud qui dit que cette guerre n'a pas eu lieu, une sorte de Thierry Messon avant la lettre. Alors, quelque chose cependant a eu lieu, Jean Baudrillard, et France Inter, comme tous les autres médias, en a rendu compte.
Alain Ménard, qui se trouve à Beyrouth, est bien évidemment à l'écoute de Radio Bagdad. Alain, vous nous confirmez la prise de contrôle de certains bâtiments publics à Koweït.
Des blindés koweïtiens ont pris des positions défensives autour du palais royal sur le boulevard qui longe la mer. Des rafales d'armes automatiques et des explosions sont entendues dans toute la ville. L'aéroport international est fermé depuis 5 heures ce matin. Et selon Radio Bagdad, qui diffuse en permanence de la musique militaire et des slogans souhaitant, je cite, « bonne chance à la révolution koweïtienne », le commandement du Conseil de la révolution irakienne a précisé que l'opération visait à renverser le gouvernement koweïtien et que les troupes de Bagdad se retireraient du Koweït dès que le nouveau gouvernement le demanderait. Beyrouth, Alain Ménard, France Inter.
Plusieurs mois plus tard, alors que les opérations militaires sont terminées et que l'on sait un certain nombre de choses, une présidente d'Amnesty International n'en persiste pas moins à nous parler de ces fameuses couveuses que les Irakiens auraient débranchées et qui n'avaient jamais existé.
Et puis il y a les fameux problèmes des bébés, puisqu'on a coupé les couveuses et on a pris les bébés des couveuses et on a pris les couveuses pour les amener en Irak et on a laissé les bébés sur place qui, bien entendu, dans l'ensemble, sont morts.
Alors, je vous cite Jean Baudrillard, « Otage de l'intoxication des médias, nous sommes induits à croire à la guerre comme jadis à la révolution roumaine », écrivez-vous. Je dirais qu'il y a là un premier niveau. La guerre qui se déroule sur nos écrans, effectivement, ça n'est pas celle qui a eu lieu. Le journaliste écoute Radio Bagdad et au moment où la présidente d'Amnesty International parle des couveuses, on sait que c'est tout à fait inventé. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il y a de très nouveau? Est-ce que c'est pas de la propagande traditionnelle?
Vous parlez de ce pseudo-événement, de la guerre du Golfe, ou bien...
Oui, de la guerre du Golfe. Oui.
Non, ben, le fait que si quelque chose a lieu, c'est métabolisé par l'image. Bon, ça, c'est le problème de l'illusion qu'on se fait quant à l'image, que ça puisse mobiliser les foules, suggérer des réactions politiques, etc. Non, on est en quelque sorte placé devant l'image comme devant une espèce de truc à consommer. On le consomme et tout est virtualisé dans ce sens-là. Enfin, la guerre l'était à travers la technologie et surtout la technologie évidemment médiatique. Mais au fond, oui, en quelque sorte, quand je dis ça, c'est du négationnisme. Oui, vous me parlez de Messian. Oui, moi, je suis négationniste. Enfin, c'est pas moi qui le suis. C'est le système qui est, lui, profondément négationniste. Je veux dire, le virtuel, c'est lui qui absorbe et élimine le réel. Donc, si on peut, comme négationnisme, on n'a jamais fait mieux. Hein. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la proposition négationniste est inacceptable, moralement, philosophiquement, historiquement. Mais en termes de virtualité, si elle peut exister, c'est parce que le système lui-même est virtuel et a d'emblée mis hors champ le réel et toutes ses conséquences.
Pour vous répondre, disons, par une affirmation un peu bête, si vous me la permettez, les gens qui meurent sont des vrais gens, ce ne sont pas des morts virtuelles.
Oui, mais attendez, il ne s'agit pas ici de matérialisme. Si je dis cette table existe, elle existe comme ça. Elle n'existe plus exactement au stade de la substance et de la représentation. C'est autre chose.
Jean-François Colosimo.
Vous parlez de mutation anthropologique, mais parlons alors de la mutation de l'image. Qu'est-ce qu'aurait été une image de ce pseudo-événement qui nous aurait transmis l'événement et non pas le pseudo de l'événement.
Oh ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu désespéré. Je ne vois pas où serait l'image qui aurait été, comment dire, l'équivalent d'un événement vécu, un événement ressenti et bon, dont les rebondissements auraient pu être personnels, je veux dire, où on aurait une relation duelle à l'événement.
Gilles Casanova.
Si je suis votre propos, la société vivrait aujourd'hui plus au rythme des virtualités d'événements qui pourraient se dérouler et dont on explore toutes les facettes une à une que de la réalité des événements qui la structurent dans sa substance même.
Oui, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez très bien, non pas halluciner les événements dans le fantasme, mais vous les donner comme réalité virtuelle sur votre écran. Vous pouvez mettre sur pied tous les événements possibles, y compris de votre vie même, c'est-à-dire mettre votre vie sur réalité virtuelle comme une combinaison spatiale. Bon, vous pouvez faire ça aujourd'hui. Donc, quelle est la différence entre l'événement qui vous concernerait parce qu'il est arrivé historiquement? Bon, ça, il y en a eu des événements comme cela. Et peut-être, en effet, il y a quand même des retours images. Alors ça m'intéresse quand même. Par exemple, si on prend la guerre du Golfe, bon, si on prend l'état actuel des choses, avec les images d'Abu Ghraib, qui étaient des images qui sont devenues une véritable revanche de l'événement sur l'imagerie, précisément, de la guerre. Et ça a eu des conséquences, on le sait, aux États-Unis même.
Antoine Perrault.
Mais comment, selon vous, est-on passé, à propos de la réalité, de la saturation au déni?
La saturation, enfin, c'est autre chose. Hein. Le déni, là, c'est une... Je veux dire, c'est nous qui réagissons par abréaction, par allergie, à l'excès de tout. Hein, à l'excès de communication, à l'excès d'information, l'excès de messages, l'excès de possibilités, en fait. Ce qui fait qu'il n'y a plus de possibles. Tout est réalisable et réalisé, donc méta-réalisé, je dirais. Donc là, c'est l'effet de tout système au point de saturation. Il y a un effet de renversement, de dissociation, je ne sais pas quoi, on peut appeler de désagrégation, peut-être. Si on parle de réalité intégrale, le destin d'une réalité intégrale, c'est de se désintégrer.
Je vais encore vous citer, toujours dans « La guerre du Golfe n'a pas eu lieu ». Cette guerre, écriviez-vous, a libéré par la force des médias une masse exponentielle de bêtises. Pas la stupidité propre à la guerre qui est déjà considérable, mais la bêtise fonctionnelle, professionnelle de ceux qui pontifient dans les commentaires, tous les bouvards et pécuchés de service, les faux aventuriers de l'image perdue, les gens de CNN, les maîtres chanteurs de la stratégie qui nous auront fait ressentir à jamais le vide de la télévision. Qui donc en prend pour son grade. Et pourtant, quand on vous demande à qui profite le crime, vous répondez à personne. Il n'y aurait pas de féodalité technologique, ce sont vos termes, parce qu'il y a une puissance qui n'a pas de finalité. Mais pourtant, Jean Baudrillard, l'information, c'est une des industries mondiales les plus florissantes.
Oui, mais tout le monde passe à la moulinette de l'information, je veux dire, même le pouvoir, même la puissance. Elle en est, comme on voit, d'ailleurs, il y a des effets réversibles qui font que même le pouvoir, il est médiatisé, donc à partir de là, il est fragilisé totalement.
Sauf le pouvoir médiatique lui-même, peut-être.
Non, pourquoi celui-là aussi? Il excède ses propres possibilités, on le voit bien, hein, on peut le dire ici d'ailleurs, de toute façon. Hein, lui aussi va au-delà de ses propres limites, au-delà de sa propre fin, qui serait d'informer, c'est-à-dire une réalité objective de l'information. Il va bien au-delà, et dans cette mesure-là, il est lui aussi voué à une espèce de renversement.
Jean-François Colossi.
Oui, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que cette métabolisation de l'image, elle fait que les commentateurs deviennent eux-mêmes les premiers spectateurs de la fabrication?
Oui, à mon avis, c'est ça qui fait que on peut pas distinguer vraiment une origine, une cause et un effet, une origine ou un acteur et un actif, l'autre passif. Un écran, c'est une interface totale. Et qu'à ce moment-là, on ne peut plus distinguer le meurtrier de la victime, celui qui en subit les conséquences, Donc, il y a, c'est ça le crime parfait. C'est le fait qu'on ne puisse plus distinguer, là. C'est l'absence de distinction possible.
Gilles Casanova?
Au fond, la réalité et le jeu virtuel du jeu virtuel sur ordinateur lui-même deviennent quelque chose qui se confondent dans l'esprit du spectateur. Alors de ce point de vue, vous partagez l'avis de Jean-Pierre Chevènement qui disait à propos des sauvageons qui vivent dans le virtuel, c'était pour le meurtre d'une boulangère à Pavilly, que c'est parce qu'ils vivaient dans le virtuel qu'ils avaient tué cette femme pensant être dans un jeu vidéo.
Bon, je ne sais pas si je dois prendre à mon compte les assertions de Chevènement, mais bien évidemment, on est dans une espèce de... Oui, de cyclotron, enfin, où là, il n'y a plus du tout de possibilité de ramener à une sorte d'objectivité un comportement quelconque. C'est l'histoire de, bon, moi j'appelais ça la précession des modèles, la précession des simulacres. C'est que le modèle est là d'abord, maintenant. L'événement, il est là avant même que l'événement se produise ou que les comportements se produisent et tout. Donc on est tous plus ou moins inféodés à ces modèles qui, eux, constituent alors véritablement un réseau. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, tout est réseauifié dans des modèles.
Jean Baudrillard, y a-t-il un moment fondateur, un tournant dans lequel le réel se dissout dans le virtuel? Alors, il y a un moment de basculement que nous avons connu, qui est la chute du mur de Berlin. Alors, vous avez entendu en début d'émission le présentateur de Radio Pankow en français qui annonce l'ouverture des frontières avec le même ton qu'il devait employer quelques jours auparavant pour stigmatiser les cochons capitalistes. Dans le fond, pour vous, est-ce que quelque chose se joue là, à ce moment-là?
C'est très difficile de reconstituer une généalogie de cette disparition du réel, puisque avec le réel disparaît même la possibilité d'en trouver l'histoire, de trouver cette histoire. Les traces disparaissent en même temps que cette réalité objective. Mais bon, c'est un simple avis. Pour moi, l'effondrement du mur de Berlin n'est pas un événement capital. Dans cette généalogie de la déréalisation ou de la réalité intégrale, comme on veut, pour moi, non. Non, l'événement, bon, c'est vraiment le stade informatique. Et là, on est dans un monde où tout est d'un échange généralisé. Donc à partir du moment où il y a échange généralisé, il n'y a plus de critères de la valeur, de critères de jugement. Et on est tous dans une forme aléatoire, quoi, où des tas de jeux sont possibles.
Vous venez de nous dire que dans le fond, cette disparition est essentiellement contemporaine de l'ère de l'écran total, selon votre propre expression. Mais nous avons vécu avant cette ère, ou en tous les cas avant qu'elle se déploie, d'autres grands moments d'irréalité télévisée et déjà quasi planétaire, comme la chute de Ceausescu en Roumanie. Les médias nous disent « ceci est une révolution », comme ils nous diront quelques années plus tard, en désignant les berges de la Seine « ceci est une plage » ou « ceci est un pédophile » en pointant le doigt sur les inculpés d'Outreau. Donc, le 26 décembre 89, ils nous juraient « ceci est un procès ».
Il était vêtu d'un très beau manteau de fourrure à l'intérieur, de très belles toiles par-dessus et d'une chapka sur la tête de fourrure. Au début, on ne voyait pas Elena. Je ne sais pas si Elena est sortie du char, elle aussi, ou si elle était dans une voiture. Le conducteur, Nicolas Ceausescu, ne ressemble plus du tout à un président bien-aimé. Il a une tête tout à fait pitoyable, ravagée, les cheveux très mal coiffés. Et apparemment, il discute, il parle avec des interlocuteurs qui restent invisibles, qui ne sont pas dans le champ de la caméra. Et Elena est très affectée. Elle a les cheveux très, très décoiffés, elle a au début un fichu de soie sur la tête, puis elle l'enlève. Elle est vêtue, elle, d'un manteau tout clair, avec un très grand col de fourrure, et elle paraît extrêmement fatiguée, très nerveuse, très, très déprimée.
Et finalement, Catherine, vous n'avez pas vu, on n'a pas encore vu d'image du procès proprement dit.
Je ne sais pas si les images qu'on voit à la télévision qui durent 7 minutes ne sont pas justement celles du procès, parce que le présentateur de la télévision qui parle off explique que le tribunal secret a décidé de juger Nicolas et sa femme et de les condamner à mort. Et le présentateur énumère toutes les inculpations.
Très logiquement, et ça n'étonne personne, le commentateur énumère les inculpations après la condamnation. Alors en 1989, on n'est pas encore à l'ère de l'instantanéité intégrale. Il n'y a pas de téléphone portable et à Bucarest, il était très difficile de téléphoner à ses rédactions. Et pourtant, on est déjà dans cette réalité irréelle.
Oui, on est, enfin, dans le cas par exemple de Ceausescu et dans le cas du mur de Berlin, je pense aussi. Là, on a l'exemple d'un système qui est venu à la saturation, celui du socialisme intégré, si on peut dire, et qui précisément se défait de lui-même à ce moment-là, s'auto-dissout sans effort, d'une certaine façon. On a été très étonnés. Mais plus largement, alors Ceausescu et le mur de Berlin, moi je pense que là, on a une vérification de... une forme de disparition de la réalité dans la farce. C'est ce que disait Marx, hein. Il y a d'abord un événement réel, et ensuite il se reproduit comme farce. Et on est dans la farce. On est dans, j'appellerais ça, moi, une extension du domaine de la farce, pour reprendre titre célèbre, et que on est précisément dans la parodie, c'est-à-dire au stade héroïque, au stade paroxystique, on est arrivé au stade parodique des choses. Et la réalité intégrale, elle se caricature elle-même dans cette parodie. Et tous ces événements-là sont des formes parodiques, on pourrait même parler un peu de pataphysique, etc. Sauf quelques-uns, je pense qu'il y a des événements non parodiques.
Bon, oui.
Le World Trade Center, par exemple.
Eh bien, je crois que nous y reviendrons, Jean Baudrillard, la semaine prochaine. Jean-François Colosimo.
Oui, est-ce que vous ne trouvez pas tout de même, Jean Baudrillard, que là, dans cette histoire de Ceausescu, on a encore un peu de croyance, c'est-à-dire les juges sont invisibles, le tribunal est secret, comme le mur était quand même une frontière. Et en fait, est-ce qu'on n'a pas vu là, en 89, effectivement, la victoire de Marx, c'est-à-dire du matérialisme historique, c'est-à-dire la liberté et la consommation sont devenues la même chose, et aujourd'hui, la consommation se révèle une prison.
Oui, si on peut le dire de cette façon, pourquoi Marx l'avait prédit, cette chose-là? Que ça finissait pas dans la consommation, pour lui, quand même.
Hein, ça finissait dans...
si on appelle ça...
dans l'accès de tous.
Il y avait un matérialisme dialectique qui allait quand même un peu plus loin que ça. Mais nous, on est tombé dans la, dans cette... je sais pas si c'est une potion magique, mais enfin, c'est vrai qu'on est tombé là-dedans. Non, mais alors à ce moment-là, la consommation, si on prend le problème de la réalité par rapport au signe, précisément, dans une opposition un peu simple, mais quand même, avec l'espace de suprématie des systèmes de signes sur la réalité, alors à ce moment-là, en même temps, on arrive dans cette consommation des signes. Et en effet, il n'y a pas de consommation sans passage à un système de signes. La consommation n'est plus du niveau de la valeur d'usage, du niveau de la valeur signe, ou peut-être même encore quelque chose de pire, j'en sais rien.
Antoine Perrault.
Les historiens se querellaient pour savoir si les sociétés d'Ancien Régime étaient des sociétés d'ordre ou de classe. Et j'ai envie de vous demander si, pour vous, la société postmoderne est une société d'ordre ou de classe. On a presque l'impression que vous la voyez comme une société d'ordre symbolique et que désormais, ce n'est plus la lutte des classes, mais la lutte des apanages et des symboles.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autre choix que l'ordre ou la classe? Parce que, bon, la classe, ça supposait quand même un rapport de force, une dimension historique, etc. L'ordre, c'est autre chose. Ça supposait une organisation symbolique, je suppose. Or, ce qui se défait complètement dans notre système social, appelons le système et non pas ordre, il n'y a plus d'ordonnance symbolique de ce type-là. On est effectivement quelque part dans un affrontement, ça je le crois quand même, une confrontation, mais qui n'est plus de l'ordre ni hiérarchique ni historique. C'est
mais
autre chose.
Ce que vous décrivez, c'est précisément l'inverse, pardonnez-moi Antoine, c'est précisément quand ce réel se transforme en réel ou en réalité intégrale, c'est par disparition de l'ordre symbolique.
Oui, absolument, absolument. C'est la première victime, s'il y en a une, c'est celui-là. Mais enfin, celui-là, on ne pourra pas le personnaliser, bien entendu. Oui, c'est la disparition de toute... comment dire ?
C'est-à-dire, on ne sait plus comment faire la différence entre l'image et son...
Oui, ce qui disparaît, c'est la distance, effectivement. Et pour qu'il y ait une symbolisation quelconque, il faut effectivement un espace symbolique, une distance, toutes sortes de choses qui, effectivement, sont court-circuitées par l'opération médiatique, informatique, opérationnelle, technologique, tout on veut. Le symbolique, ça, effectivement, c'est l'évanouissement.
Ce qui vous rapproche, dans le fond, du monde post-historique que décrit Philippe Muret.
L'abolition de la distance et de la séparation. Oui, simplement, moi, je n'en tire pas un constat nihiliste, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Au-delà de cette opération-là, moi, j'entrevois autre chose.
Gilles Casanova.
En quelque sorte, si on vous écoute, les médias nous feraient vivre l'ensemble des potentialités du nous-mêmes et feraient ainsi disparaître le phénomène et nous perdrions l'espoir.
Où est-il le noumène? Alors, est-ce qu'il y a encore une sphère nouménale? Et même le phénomène, parce que le phénomène est encore d'un ordre sensible et tout, on est exactement dans quelque chose qui est passé un petit peu au-delà de tout ça et qui est l'opérationnel, moi je pense simplement, et où la distinction précisément noumène, phénomène, enfin toutes ces distinctions plus ou moins dialectiques, c'est vrai qu'elles se sont trouvées un peu écrasées dans ce broyage moderne, actuel, quoi. Moi, ce qui me semble le plus... ou le dramatique, je ne sais pas, enfin, c'est quand même une dramaturgie, c'est l'excès. C'est vraiment l'excès. C'est-à-dire, on ne peut plus avoir de critères de valeur, de jugement et de sous, parce que tout est au-delà de sa propre destination.
C'est l'ère du plein, donc.
Oui,
c'est
du plein, mais du trop plein, bien entendu, oui.
Vous dites que le harcèlement médiatique, Jean Baudrillard, est comparable au harcèlement sexuel. Sauf que, pour le premier, nous sommes demandeurs, ce qui fait une petite différence.
J'ai dit ça, moi ?
Oui, vous l'avez écrit.
Ah, je l'ai écrit, ah bon.
Probablement dans une de ces chroniques qui ont été rassemblées dans Écran Total.
Sur le concept de harcèlement, on peut être d'accord. Les uns les autres, enfin, les harcèlements se complètent les uns les autres.
Non, mais ce que je voulais, en fait, ce sur quoi je voulais vous amener, c'était sur l'aspect servitude volontaire. C'est-à-dire que nous sommes les complices, tous, de cette disparition.
Absolument. On est dans une immense syndrome de Stockholm, ça je le crois effectivement, que dans cette histoire-là, on est tous à la fois victimes mais complices effectivement, et ça crée ça aussi une désorganisation effectivement des responsabilités. Là, on est clair que tout le monde en fait partie. On est tous l'otage du système et on est tous séduits par cette prise d'otage.
Vous dites que nous sommes en train de devenir en quelque sorte les auxiliaires de nos écrans. Est-ce que vous travaillez sur ordinateur, Jean Baudrillard ?
Non, je n'ai pas d'ordinateur.
Jean-François Colosimo.
Ce monde que vous décrivez, est-ce que ce n'est pas le même que celui que décrivaient Deleuze et Guattari dans l'Anti-Oedipe, mais avec une joie féroce, les schizodécodeurs, il n'y a plus que des champs d'intensité, nous sommes réduits au vide du signe, et nous en sommes, disent Deleuze et Guattari, très heureux, parce que nous sommes débarrassés de ces illusions que sont la loi, le père.
Oui. Oh là là, toutes ces vieilles lunes.
Oui. Le problème avec la déterritorialisation et tout ça, c'est que ça nous amène tout simplement au système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est ça la seule objection, d'ailleurs on en a discuté dans le temps avec Lyotard et Deleuze, c'est que finalement, sous l'effet d'une espèce de d'extrapolation désirante, de machinique désirant, etc., on était en train d'aller exactement dans le sens où le système a réalisé ces choses-là. C'est-à-dire ce qui était un espoir fou ou un fantasme ou de l'ordre du désir, s'est trouvé réalisé, s'est trouvé accompli. Et là, on se retrouve comme des gros gens comme devant.
Gilles Casanova.
Alors, une question. Où se situe le moteur? Dans nos sociétés aujourd'hui d'hyperconsommation, les forfaits qu'on vous propose de plus en plus illimités, qui vous permettent de consommer gratuitement, avec un abonnement plus que vous ne pourrez jamais consommer dans votre vie, que ce soit de téléphone, de vacances, de ceci ou de cela, est-ce que c'est ces opérations montées par ces financiers de l'hyperconsommation qui poussent la société vers cette déréalisation, ou est-ce que les médias ont introduit cette idée ?
Jean Baudrillard.
L'un ne va pas sans l'autre. Alors, les médias, de toute façon, sont un multiplicateur, hein. Peut-être un démultiplicateur aussi, mais enfin, c'est sûr que tout ce qui va dans le sens de... Oui, c'est bien là, hein, l'offensive, c'est celle de la profusion, enfin, c'est celle de la submersion, ou de l'immersion, effectivement, le virtuel, c'est quelque chose dans lequel on est immergé. On est submergé par l'abondance, ou ce qu'on a appelé la société d'abondance. Alors cette profusion-là, à mon avis, c'est celle-là qui est meurtrière, quoi. C'est-à-dire que nous ne sommes plus en état mental, physique, intellectuel, de satisfaire à cette profusion. L'homme, c'est ça que je disais que c'était anthropologique, c'est que là, il y a une mutation qui fait qu'on est devant un état où nul être humain n'est capable d'affronter tous ses possibles. Tout ce qui est déversé, qui nous est déversé, dans lequel on est immergé, etc. Et là, c'est l'objet, c'est le début d'une panique, d'une véritable panique. C'est plus seulement le manque, la misère, le désespoir héroïque encore. C'est la panique au sens vraiment pathologique.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sujet.
Oh non, le sujet, il y a longtemps qu'il est.
Antoine Perrault.
Naïvement, je voudrais un petit peu d'espoir. Panique, profusion, intoxication. Est-ce que vous pensez qu'il est encore aujourd'hui possible de permettre l'intelligence critique des choses ?
Ben, j'ose l'espérer, on est là pour ça, hein, alors évidemment. Mais bon, il y a de moins en moins d'illusions sur cette histoire-là. C'est-à-dire, je partage votre position critique, enfin, une espèce de possibilité de jugement encore, d'intelligence des choses. Mais je crois, malheureusement, que cette intelligence critique, elle défaille, elle aussi, devant cette situation nouvelle, original d'ailleurs, mais qui demanderait alors, je ne sais pas, une façon de rétorsion, de représailles, une autre négativité que la critique, une hyper-négativité aussi, c'est-à-dire dans son genre beaucoup plus violente que l'intelligence critique.
Enfin, pour aller quand même dans le sens d'Antoine Perrault, Jean Baudrillard, votre pensée, votre travail et votre présence ici aujourd'hui prouvent quand même que ce que vous décrivez, le désastre, n'est pas tout à fait accompli.
Bien entendu, mais tout est quand même... C'est pas un développement, parce qu'il n'y a plus de développement continu dans ce sens-là, mais il y a des discontinuités, il y a des seuils critiques. Bon, La situation globale, mais encore une fois, moi j'ai dit tout ça, était une sorte d'hypothèse de mise en simulation du système global. Bon, bien sûr que nous partageons un mode de vivre qui tient compte forcément d'une espèce de principe de réalité. Simplement, ce n'est plus lui qui, symboliquement, est au gouvernail.
Au pouvoir.
Non, ni au pouvoir, bien entendu. Et donc, dans ce cas-là, il faut se dire que ce n'est plus grâce aux ressources de l'intelligence critique qu'on va pouvoir affronter cette situation à la limite. C'est sûr qu'on est déjà au-delà. Alors, au-delà, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses, hein, je ne veux pas dire qu'il ne se passe rien, mais il y a peut-être une autre forme d'intelligence qui serait à l'œuvre.
Ce qui veut peut-être dire que nous sommes déjà des vestiges, Jean-François Colosimo.
Une autre forme d'intelligence ou la casse, tout simplement?
Bah, moi, c'est ce que j'appelle l'intelligence du mal, mais... Parce que le même paradoxe qu'on vient de dire, on peut le développer sur le plan, pas moral, mais dans le sens du bien et du mal. On est dans la phase où du bien, de l'accumulation et de la suraccumulation du bien, c'est-à-dire tout ce qu'on nous donne, la profusion, la sécurité, etc., toute la technologie est du côté, dans ce sens-là, d'une espèce d'accomplissement idéal, optimal, etc. À cela s'oppose, cette fois, l'excès du bien, c'est-à-dire l'excès du bien produit le mal. C'est une nouvelle sorte de mal, j'appelle le mal absolu, celui-là. Il est produit non pas par l'opposition, mais par l'excès du bien.
Mais Jean Baudrillard, j'ai envie de vous poser une question que posait notre réalisateur Mehdi Alhadj quand nous avons préparé cette émission. Est-ce que ce n'est pas une vision très ethnocentrée? C'est-à-dire, est-ce que cette fin de l'histoire ou cette disparition du réel, ça n'est pas une affaire d'occidentaux, blancs, riches?
Absolument. Au départ, c'est sûr que c'est la modernité occidentale qui l'a engendré, ça c'est très clair. Simplement, cette disparition-là, elle est impérialiste, je peux dire. L'Occident ne pouvait pas ne pas exporter tout ça sur la planète entière. Et aujourd'hui, on a affaire, moi je dirais franchement, à cette espèce de farce, de mascarade, j'appelais ça une espèce de carnaval, qui fait qu'aujourd'hui, le monde entier est virtuellement soumis ou exposé, de toute façon, à cette espèce de parade occidentale qui a depuis longtemps perdu sa référence, enfin, sa justification morale, etc., mais qui essaime, qui prolifère partout, le monde entier, aujourd'hui, est virtuellement annexé. C'est autre chose que la colonisation, c'est pire, mais enfin bon.
J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur la généalogie, et à travers la généalogie, peut-être sur les modalités de cette opération. Parce que vous faites plus que soupçonner, disons, vous accusez, disons, l'ère d'Internet, les écrans absolument déployés partout, d'être finalement à l'origine de ce crime sans criminel. Mais pourtant, on voit les signes apparaître dès l'invention du direct. Écoutez ce reportage diffusé en mai 68 sur la radio d'État.
Voici Interactualité que présente Jean-Pierre Elkabbach.
Il y a eu des scènes extraordinaires de violence dans les quartiers universitaires de Paris. Et elles se poursuivent. Des barricades, des voitures brûlées, des étudiants qui bombardaient de pavés les forces de l'ordre, qui ripostaient avec des grenades lacrymogènes. Jean-Claude Bourret doit se trouver quelque part avec une voiture émettrice aux environs du boulevard Saint-Germain. Il va pouvoir nous renseigner sur la manifestation. Oui, en direct. Vous êtes sur l'antenne.
Eh bien, écoutez, Jean-Pierre Elkabbach, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et trois fois les manifestants ont chargé les CRS, trois fois les CRS sont reculés. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS. Ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle. Et à deux pas de là, les manifestants refluent, tandis que autour de moi, les pierres tombent de tous les côtés. Vous entendez les CRS qui crient pour s'aider mutuellement. Mais vraiment, c'est une scène d'émeute extraordinaire. Je vois là-bas, les CRS qui sont parvenus au contact. Et il y a des coups très très sévères qui sont déchargés. Et une nouvelle fois, les voitures font les frais de l'opération. Voilà une pierre qui tombe juste à côté de moi. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Une scène d'une violence inouïe.
Comment les étudiants
sont lâchés? Les gaz sont lâchés, ce ne sont plus des gaz lacrymogènes. Ce sont des gaz asphyxiants, ou du moins des gaz qui font tousser. Et je suis obligé de revenir un petit peu en arrière, car c'est très difficile de tenir.
Eh bien, c'est à partir de sous ces éléments que Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Alain Perfit, va pouvoir faire son commentaire en direct et son entretien avec Yves Mouroussi qui se trouve à la télévision.
Jean Baudrillard, on voit bien, il n'y a pas Internet, il n'y a pas encore des centaines de chaînes de télévision et déjà l'événement se mue en spectacle. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a frappé. C'est l'intervention du ministre à la fin qui, dans le fond, témoigne encore d'une volonté de conserver un certain contrôle. Alors pour nous, Ce type d'intervention apparaît comme la manifestation d'instincts autoritaires qu'il convient évidemment de condamner avec la dernière sévérité. Mais est-ce que cette volonté de ne pas laisser la fabrique de l'information prendre le contrôle de l'humanité n'est pas aussi peut-être un gage de liberté? Est-ce que la censure peut être un gage de liberté, Jean Baudrillard?
Ah, on pourrait, oui, paradoxalement, on pourrait revenir sur cette espèce de d'échange généralisé, de libéralisation totale, de levée de tous les interdits qui font partie de cette profusion dont on parle, hein, là, de tout, et qui sont objectivement meurtriers, c'est vrai. Mais où est la limite? Là est le problème. Hein. Et moi, je ne suis pas prophète.
Hein. Gilles Casanova.
Ce qui a visiblement changé, c'est qu'aujourd'hui, dans la même situation, ce n'est pas au ministre qu'on donnerait la parole, mais à l'émeutier, juste après que des marionnettes eurent dit à quel point il avait raison.
Oui, bien sûr. Je pense à autre chose, à l'Internet précisément. Moi, j'avais pensé, étant donné cette espèce de libéralité d'Internet, la gratuité totale qui mène à un échange généralisé qui devient une sorte d'intoxication planétaire, j'en reviens à se dire, oui, il vaudrait peut-être mieux qu'Internet rentre dans le capital, dans le marché, soit payant, etc. Ça limiterait au moins les dégâts.
Jean-François Colosimo.
Est-ce que cette histoire, là, on a vu, c'était mai 68, est-ce qu'en fait, c'est pas à ce moment-là qu'on est rentré quand même dans la vocation du psychodrame et dans le fait que nous sommes devenus des rôles et après que les rôles se sont abolis à force d'être, je dirais, mal tenus?
Oui, mais
vous êtes bien sévère, Jean-François.
Dès 68, là, on le voit bien, hein, dans cette, bon, les barricades, la radio. Déjà, il y a le retour image, et ça, le retour image, c'est une partie de cette intégration, précisément.
C'est direct, hein.
Les,
en fait.
Les émeutiers, les manifestants sont déjà, s'entendent déjà fonctionner.
Ouais. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Antoine Perrault.
Oui, une généalogie dans le crime parfait. Vous dites, l'humain est devenu le cadavre dans le placard. Comment c'est arrivé?
Oui, je sais. Ça veut dire que quelque part, il y aurait peut-être quand même une possibilité de, comment, d'exhumer quelque chose et de faire une enquête réelle, mais c'est dans le placard et aujourd'hui, est-ce qu'on peut ouvrir les placards? Mais l'humain, de toute façon, c'est un concept, c'est déjà un modèle, c'est déjà une simulation. Moi, l'humain, c'est déjà un modèle de simulation. Alors,
on... Ouh là là, vous nous tirez le tapis sous les pieds, là. Hein.
Ouais, oui, mais non, mais attends, c'est-à-dire qu'avant de retrouver un cadavre, il faudrait qu'il y ait eu un être vivant. Hein. Et qu'est-ce que c'est que l'humain? Ça a toujours été un immense modèle occidental de simulation. Hein. Aucune autre société n'a le concept d'humain, d'humanisme, d'humanitaire. Il a été exporté. Et même chez nous, c'est ça, il faudrait s'interroger sur notre propre culture, notre propre civilisation. Comment est-ce qu'on fait advenir l'humain tout d'un coup, au firmament, comme ça, des valeurs?
Jean-François Colosimo.
Je croyais que votre biographie portait cependant un livre qui s'intitulait « Oubliez Foucault ».
Oui, et alors?
Et là, vous trouvez très fou qu'elle lia, là.
Oh, ben moi, j'ai jamais réglé mes comptes avec Foucault. C'était pas du tout un règlement de compte. Je suis tout à fait, en particulier, bon, sur sa généalogie, les généalogies qu'il fait, elles sont meurtrières, elles aussi. Hein. C'est pas du tout un humanisme, hein. Il l'a bien dit, d'ailleurs. L'homme, c'est fini.
En tout cas, cher Jean-François Colosimo, vous avez dit que les rôles étaient un peu mal tenus. Vous remarquerez qu'ils sont tenus, dans un certain nombre de cas, par les mêmes depuis des années. Alors, Jean Baudrillard, vous avez encore écrit cette phrase que j'ai envie de livrer à nos auditeurs en conclusion de cette discussion. Sans s'en rendre compte, la totalité du genre humain a quitté la réalité. Alors, vous êtes un peu désespérant, Jean Baudrillard, mais est-ce que vous n'êtes pas aspiré, fasciné par l'écran? Est-ce que, après tout, on ne peut pas se dire la vraie vie est ailleurs? Nous continuons à aimer, à penser, à croire, à vivre. Bref. Est-ce que vous ne regardez pas un peu trop la télévision, Jean Baudrillard?
Ça, non, c'est un argument que je réfute. Je ne la regarde pas beaucoup, je la regarde. Mais attendez, moi, oui, je suis fasciné. Bah, tout le monde l'est. Et il n'y a pas de bonne analyse s'il n'y a pas une part de fascination et de sidération, en tout cas, devant ce truc-là. Oui, il faut être aspiré par cela pour avoir au moins déployé une contre-énergie, enfin une énergie virtuelle, elle aussi, de résistance. Hein. Donc ça, moi, je ne le nierai pas du tout. Mais la télévision, bon, non, c'est pas dangereux, chacun s'en arrange, hein, c'est pas ça un véritable problème.
Merci en tout cas Jean Baudrillard. Nous poursuivrons avec vous l'exploration de notre monde virtuel la semaine prochaine. Il m'aurait fallu trop lourdement amputer votre temps de parole pour proposer une bibliographie. Nous le ferons donc sur le site internet de l'émission. Je me contente donc de renvoyer à deux de vos ouvrages, « La guerre du Golfe n'a pas eu lieu » et « Le crime parfait », ainsi qu'au très riche cahier de Lerne qui a été publié au printemps dernier. Et en attendant, nous allons découvrir une autre facette de vos multiples talents avec une de vos chansons, interprétée par Megumi Satsu, une artiste japonaise. Et la chanson s'appelle « Motel Suicide ». Au revoir Jean Baudrillard, au revoir à tous, ainsi qu'à vous chers auditeurs.
Pour cette émission, dont vous pourrez réécouter toute la semaine la version intégrale sur le site internet franceculture.com, la documentation sonore a été préparée par Claude Armand de Castio, à la technique Simone Ronget, réalisation Médiel Hatch.
Très beau, musculé, affectueux, suicide-moi, la musique vibre.
C'était « Qui a tué la réalité ?», un numéro du Premier Pouvoir d'Elisabeth Lévy avec Gérard Casanova, Jean-François Colosimo, Antoine Perrault et bien sûr Jean Baudrillard, diffusé pour la première fois le 24 décembre 2005.